18h37 en direct sur CNews et Europe 1 pour Punchline. On va parler de ce qui va se passer demain pour les transports en commun. Et évidemment, beaucoup de perturbations. On va rejoindre nos équipes à la gare Montparnasse. Solène Bolland, bonsoir. Vous êtes au milieu de la gare avec Jules Bedos. Quelles sont les prévisions de trafic pour demain, Solène ?
Écoutez, Laurence, la journée s'annonce noire dans les transports. La SNCF annonce 2 TGV sur 5 sur l'axe nord, 1 sur 2 sur l'axe est et sud-est, 1 sur 4 sur l'axe atlantique. 2 trains sur 5 circuleront du côté des Ouigo, 2 sur 10 pour les TER et aucun train pour les intercités. Alors ici, gare Montparnasse, les voyageurs ont pris leur disposition. Certains ont même décidé d'avancer leur voyage. À Paris, les transports en commun seront aussi fortement impacté. Seules les lignes 1 et 14, soit les lignes automatiques de métro, circuleront normalement. D'autres seront uniquement accessibles aux heures de pointe avec un trafic réduit. Enfin, comptez en moyenne un train sur 10 pour les RER C, D et E et un train sur 3 cette fois pour les RER A et B.
Merci beaucoup. Solène Bolland et Jules Bedos, gare Montparnasse. Ça va être galère, hein, Fabien Villedieu, de ce drive de pouvoir vous voyager demain. Pensez aux voyageurs ou pas ?
Je ne pense qu'aux voyageurs. Enfin, moi, c'est mon métier, hein, le service public, c'est les voyageurs. Ce n'est pas uniquement les jours de grève où on aime bien en parler, mais les voyageurs, ils galèrent tout le temps, tous les jours. Et, par exemple, aujourd'hui, ce n'était pas la grève et j'ai pris un train et c'était la galère parce qu'effectivement, il manque du matériel. Et ce qui fait que là où tu dois avoir un double train, tu n'en avais qu'un simple, donc tout le monde se retrouvait entassé. Donc la galère, c'est tous les jours. On en parle généralement les jours de grève, mais, voilà, mais je pense aussi aux gens qui n'ont pas envie, parce que la galère. Demain, il faut se projeter sur la galère quand tu seras à 62, à 63 ans sur le quai à attendre ton train pour aller bosser. Voilà, ça c'est la vraie galère. En vrai, la vraie galère, c'est pas demain. La vraie galère, c'est quand tu auras 63 ans, ouais. Si la réforme passe, et en disant, ah, finalement, si je m'étais mobilisé avant, là, à 63 ans, je serais en train de m'occuper de mes petits-enfants ou je serais en train de faire la grasse mat, parce que c'est aussi ça, la retraite, pouvoir faire la grasse mat, pas être obligé de se lever à 5-6 heures du matin, voilà, pour prendre son train, se précipiter à aller mettre les gosses, enfin, le quotidien des Français qui est où t'es à 100 à l'heure.
Les gosses, on les met pas à l'école.
Non,
mais. Ça dépend, vous savez, ça c'est un peu décalé.
Vous qui êtes pas loin quand même de.
Comment
de ce cap-là, de prendre...
Oui, exactement, c'est pour ça que je me renseigne. Moi, j'ai une question très simple à vous poser. Là, il y a une fin de non-recevoir de la Première Ministre. Parce que quand elle dit c'est plus négociable les 64 ans, d'ailleurs, ça laisse sous-entendre que ça l'a été. Parce qu'entre plus et pas, c'est pas la même chose. Mais elle dit c'est plus négociable. Bon, vous m'avez énervé, donc... Mais le mouvement, il s'arrêtera jamais, alors. Parce que si c'est plus négociable... que le gouvernement ne retire pas cette réforme à 64 ans, vous allez continuer de mobiliser avec le risque, je vous le souhaite ou je ne vous le souhaite pas, vous choisirez, que ça s'étiole, que ça diminue. Est-ce que pour vous, la question du pourrissement de ce mouvement social, au-delà du nouveau succès de demain, évidemment, ce n'est pas une question qui taraude les syndicats et leurs leaders ?
Alors, vous êtes taraudé ou pas ?
Évidemment, je pense que le gouvernement il joue la carte du pourrissement, voilà, et de dire le 19, ils avaient tous été en Espagne, voilà, ils se sont dit si le 31 on repart tous dans un autre pays, ça va se voir. Donc ils ont trouvé autre chose.
Ça le ferait pas.
Voilà, ils ont trouvé autre chose pour ne pas parler, je crois qu'ils font une conférence de presse à 14h le jour de la manifeste. Voilà, l'essentiel c'est de dire que c'est un non événement et que eux ils jouent la carte de c'est un mauvais moment à passer et que mais de toute façon ça va quand même passer et c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça que dans un certain nombre de secteurs, on pose la question d'une grève de 48 heures, on posera ça en AG. Moi, je serai en Assemblée Générale, je proposerai aux cheminots de faire une séquence de grève le 7 et le 8, compris pour cranter un petit peu la mobilisation.
Mais Fabien Villedieu, 7 et 8, donc 48 heures, mais reconductible ? C'est-à-dire que là, on part sur un conflit long ou pas ?
Non, on proposera le 7 et 8, voilà.
Okay.
Et on verra, de toute façon... On verra avec les cheminots, en Assemblée Générale, on verra s'il y a d'autres secteurs professionnels, parce que les cheminots nous disent et me disent on ne peut pas se battre tout seul, on est prêt à jouer à notre partition, mais par contre, il est hors de question qu'on soit, comme en 95 ou en 2019, un peu la locomotive. On veut qu'il y ait d'autres locomotives.
Sans jeu de mots.
Sans jeu de mots, évidemment. Et voilà, en fonction de tout ça, parce qu'effectivement, il y a un risque qu'on enchaîne les grosses manifs, mais que ça ne bouge pas beaucoup du côté du gouvernement, même si au bout d'un moment, ça risque quand même d'être compliqué. compliqué. Voilà. Parce que quand vous mettez plus d'un million de personnes, enfin, je peux pas croire que c'est un épiphénomène et que ça leur passe comme
2010,
ça.
Il y a quand même... Vous aviez River devant vous. 2010, ça a duré des semaines, des mois. 14, et finalement, 14, bah là, j'ai 14 jours est passé de 60 à 70.
C'est vrai. Et le gouvernement, d'ailleurs, s'en est pas remis. Et en 2012, il a sauté.
Et peut-être que Nicolas Sarkozy l'a payé pour sa réélection.
Voilà. Et ils ont payé la facture 2 ans après. Voilà. Ça. Donc, du coup, il y a quand même des... Enfin, on verra. Moi, je ne suis pas Madame Soleil. On verra ce que ça
se passera. Est-ce que vous envisagez, par exemple, de continuer les mobilisations une fois que le texte sera voté?
Alors, il sera voté, je crois, au mois de mars.
Absolument.
Donc, du coup, j'espère qu'on aura gagné avant. Parce que ça veut dire que...
voilà, sinon, ça va être long.
Voilà, ça va être long. Et puis, à chaque fois, on perd de l'argent. Voilà, moi, le 19, j'ai perdu 100 balles. Là, je vais reperdre 100 euros.
Vous avez des caisses de grève qui vont vous rembourser ça ou pas?
Ouais, mais alors, pour l'instant, elles sont vides. Alors, les caisses de grève, oui, moi, de ce que je me suis renseigné...
La CGT avait lancé une cagnotte il y a quelques semaines. Elle était à 200 ou 250 000 euros.
250 000 euros,
ouais. Ouais, mais ça fait pas beaucoup parce qu'il y a quand même des milliers.
Mais je sais bien.
En fait, il y a des milliers de grévistes. Voilà, et donc 200 000 euros pour les personnes, c'est énorme, mais 200 000 euros pour des milliers de grévistes, ça fait 10 balles, quoi. Voilà, donc du coup, on n'en est pas là. Je sais qu'il y a une stratégie de mettre en place des caisses de grève pour pouvoir tenir tout ça. Voilà, est-ce que c'est la forme que ça prendra? Bon, moi, déjà, je dis, il faut réussir la journée de demain. Okay. Mettez-vous en grève, venez au manif.
Marc Toiti, je vais juste vous faire réagir, mais j'aimerais vous faire écouter François Ruffin, député de l'ANUPS, qui dénonce l'extrémisme de la réforme. Et il parle aussi des fonds de pension, parce que vous disiez voilà, qu'aujourd'hui, c'est déjà financé de cette façon. Écoutez François Ruffin, tout à l'heure, à l'Assemblée nationale.
C'est que vous êtes au service de la finance plutôt que de la France. C'est que vous êtes au service aujourd'hui, avec ce projet, très clairement des fonds de pension plutôt que des salariés français, contre tous les syndicats de France, contre 7 Français sur 10, contre 8 salariés sur 10, même contre des patrons. Vous vous radicalisez. Vous vous radicalisez. Vous êtes aujourd'hui dans un extrémisme pour imposer cette réforme contre un corps social qui n'en veut pas, que vous brutalisez.
Voilà, la France insoumise qui dit au gouvernement qu'il se radicalise.
Non, le problème, c'est qu'en fait, on a un problème de culture économique historique en France. Donc, bien entendu, c'est facile de dire, voilà, on va faire payer ici les riches, etc. Le gros problème qu'on a, c'est que, oui, moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, on a un coût énorme de cette grève sur l'économie française qui n'en a pas besoin, puisqu'elle est déjà quasiment en récession. Donc là, il y aura des entreprises qui peuvent effectivement déposer bilan ou alors, ou même faire du chômage technique, etc. Après, le fait de dire, on va faire payer les riches, Pierre, Paul ou Jacques, etc. Non, aujourd'hui, moi, je suis d'accord, il faut sauver la retraite par répartition, mais pour la sauver, il faut effectivement l'aider. Et donc, le drame, c'est en imposant cet âge, effectivement, je dirais, de légal de la retraite, où, effectivement, on casse ce lien social. Moi, j'ai l'impression qu'on ne peut pas prendre le gouvernement peut prendre le risque de plusieurs journées de grève comme ça, successives, parce qu'il y a autre chose derrière la retraite. Il n'y a pas que la réforme de la retraite qui pose problème. Il y a tout l'enjeu aujourd'hui d'un ras-le-bol global lié effectivement à cette baisse du pouvoir d'achat, cette inflation qui est là. Beaucoup de Français qui souffrent énormément. Moi, c'est ça aujourd'hui qui m'inquiète. Mais par contre, je pense que le fait de dire, on va faire payer les milliardaires ou autre, c'est pas ça globalement. À mon avis, ça, c'est pas une bonne stratégie. Je pense que la bonne stratégie, c'est aujourd'hui de sauver la retraite par répartition. Sinon, dans quelques années, évidemment qu'elle va exploser. Le problème, c'est que le gouvernement, faire attention, moi je l'ai trouvé, il a eu du mal, hein, Eric Woerth, effectivement, il ramait un petit peu, effectivement, parce que.
Un peu dur.
Non, mais non, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui ce problème quand on est face à
des personnes. Aujourd'hui, c'est assez difficile de.
Non, quand on a
c'est toujours facile de. Non, mais objectivement, je prends la défense d'Eric Woerth qui n'est pas là.
Mais c'est
plus facile de critiquer cette réforme.
Exactement.
Non, mais intellectuellement.
Non, mais moi, c'est pour ça que je dis, je suis pour.
Si on faisait un jeu de rôle, moi j'apprécierais beaucoup. Moi qui trouve qu'elle va plutôt dans le bon sens, si on faisait un jeu de rôle, c'est tellement plus facile de la critiquer, cette réforme. Alors que c'est vrai que moi je vois, pour moi, elle est assez indispensable. Et quand tout à l'heure, il y a la question se posait, est-ce que Elisabeth Borne a eu tort de fermer la porte, de dire ça y est, c'est fini les négociations? En fait, les négociations, elles ont eu lieu pendant 6 ans, matin, midi et soir, où il y avait des réunions avec les partenaires sociaux, les partis politiques.
Ils ont dit depuis le départ, les partenaires sociaux, qu'ils n'en voulaient pas.
D'accord, mais attendez,
du report de la réforme.
Je ne suis pas là. On peut reprocher tout ce qu'on veut à Emmanuel Macron sur plein d'autres sujets. Mais sur cette question de la réforme des retraites, il s'était engagé à la faire. On en avait déjà parlé, on a déjà débattu de ça. Est-ce que vote vos soutiens à la réforme des retraites? Et ensuite, il y a eu des consultations. Non, mais c'est pas la surprise du chef sortie du chapeau.
Ça fait
des mois et des mois qu'on en parle,
par exemple. Et le syndicat était contre. Donc,
non, mais
comment vous êtes d'accord? Ce chiffre,
on est d'accord.
Non, mais attendez, Martoiti, le jour où il y a une réforme
beaucoup plus puissante
qui est soutenue par les syndicats, appelez-moi.
Mais il y a des syndicats
communistes. Là, on a donné le bâton pour se faire taper dessus.
Et puis surtout, je suis très souvent entièrement d'accord avec vous. Mais voilà, une réforme des retraites. qui est plébiscité, où on voit les syndicats qui applaudissent demain.
Ça n'arrivera pas.
Je n'ai jamais vu ça.
Quitte à avoir des grèves, autant faire une vraie réforme. Parce que dans 4-5 ans, on va faire une autre réforme.
On est entièrement d'accord, Marc.
Je suis parti sur 67 ans, là, M. Villieu. Éric Revel, allez-y.
Que Sudrail a soutenu.
Aucune.
Bah ouais.
J'ai un point où je suis d'accord avec vous, et du coup, c'est ce qui me fait dire qu'on peut gagner. C'est qu'en fait, en dehors de l'histoire des retraites, des mobilisations et tout, enfin, il y a un contexte qui est quand même assez particulier. C'est-à-dire qu'on sort d'une séquence où il y a un problème d'inflation, où aujourd'hui, les Français, ils ont du mal à remplir leur frigo parce que les prix augmentent. Là, par exemple, à partir du mois de février, les prix de l'énergie vont augmenter de 15%. Il y a une crise énergétique. Donc, tout ça, le gouvernement le sait. C'est-à-dire qu'il y a un contexte qui est déjà, avant la réforme des retraites, qui lui est défavorable. Et finalement, la convergence des mécontentements, ça, pour le coup, je me dis qu'on a peut-être une fenêtre de tir pour pouvoir faire reculer ce gouvernement.
Non, on retombe sur le coup de poker qui peut coûter très cher. C'est là ce que j'ai voté.
Mais derrière, si vous stoppez le gouvernement sur cette réforme-là, il est stoppé net sur toutes les autres.
Je sens que je vais me prendre une cartouche là.
Non, pas du tout.
Avec le sourire, on peut regarder la gourmandise d'Éric Revel.
Non, mais en fait, vous auriez préféré quoi ? Qu'on augmente les cotisations sur le salaire des travailleurs au risque de leur faire perdre plus de pouvoir d'achat ? Vous auriez préféré quoi ? Qu'on diminue les pensions au risque de taxer nos aînés, et puis le sujet que vous abordez jamais, mais moi qui me tient à cœur, c'est la capitalisation. Pourquoi on ne mettrait pas un peu de capitalisation à côté de la répartition pour sauver le système par répartition ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai regardé un truc qui m'a estomaqué. Le système préfond des fonctionnaires, le système par capitalisation. Hein, ce qu'épargnent les fonctionnaires aujourd'hui, c'est placé sur les marchés financiers. C'est né en 1963. Vous savez avec qui ? Avec des syndicats. Et faux ? La CFDT était à la création de Préfonds. La CGT aussi au début. Ben, ce fonds de capitalisation, il existe pour les fonctionnaires. Pourquoi est-ce qu'il n'existerait pas ? Pour soutenir la répartition. Alors, pas pour la faire disparaître.
C'est un gros mot, capitalisation, M. Villieu ?
Bah, c'est un gros mot. C'est vrai que nous, c'est pas du tout dans la culture. On a un système par répartition que je trouve plus juste. Il y a d'autres pays qui ont choisi ceci. Oui, mais c'est je crois que les retraites par capitalisation, c'est 3% reprenez pas. C'est quand même
marginal. En France, c'est pas développé. Au niveau de la préfond, par exemple, effectivement, on pourrait le généraliser. Parce que, encore une fois, le but est de sauver la retraite par répartition. Oui. Qui aujourd'hui est en danger. Donc, si on met une petite dose de capitalisation, ça permettra d'aider.
Bon, j'ai l'impression qu'ils essaient de vous convaincre.
On vous sent sur le
Et par ailleurs, je tiens à dire que ces systèmes de retraite par capitalisation sont pas soumis à cotisation. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les systèmes de retraite par capitalisation, ils essayent même d'en introduire un.
Chez les coûts, n'est pas en touche.
Laissez-le répondre. Donc, s'il y a un problème de ressources, il y a une histoire de financement. Et par exemple, vous expliquez, et moi, j'ai un désaccord avec vous là-dessus, c'est que l'augmentation des cotisations retraite. Voilà. Donc, on sort le chiffre en 2027 pour résorber les déficits, il faudrait une augmentation des cotisations retraite, partie salariée et employeur, annuelle de 407 euros par an. Voilà. Donc j'ai pris ma petite calculatrice, 407 divisé par 12, ça fait 34 euros. 34 euros, partie employeur et salarié, ce qui fait une augmentation de 10 euros pour le salarié par mois. 10 euros. Bah, très honnêtement, si vous dites aux salariés, bah, tu payes 10 euros de cotisation retraite par mois, mais par contre, tu pars pas à 64 ans. Je pense pas que ça vous grève votre pouvoir d'achat de dingue, par contre, ça vous empêche de partir à 64 ans.
Pardonnez-moi, ça me choque qu'un syndicaliste brillant comme vous ne sache pas qu'il y a des Français qui sont à 5 euros près à la fin du mois. Donc 10 euros, c'est quelque chose.
Oui, mais c'est aussi des Français à qui on va demander de bosser à 64 ans et qui ont des difficultés pour aller jusqu'à 64 ans. Donc ça, c'est une des pistes de financement. Je donne une autre piste de financement. Il y a un rapport qui vient de sortir par des hauts fonctionnaires, voilà, qui s'appelle Nos services publics, un collectif pour la défense de. Et en fait, ils sont appuyés sur une phrase du président du conseil d'orientation des retraites, Pierre Luybras, qui a expliqué qu'en fait, il n'y avait pas une explosion des dépenses, mais il y avait un problème de ressources. Et un des problèmes des ressources qu'il y avait, c'était le fameux CNRACL. Donc CNRACL, c'est un système de retraite pour les collectivités locales et pour les hospitaliers, donc tous ceux qui bossent dans les hôpitaux, qui ont, eux, un taux de cotisation de 41% sur les retraites, là où c'est 28% dans le privé. Et vu que le gouvernement prévoit qu'il y ait moins de fonctionnaires demain, du coup, ça affaiblit la masse globale de ressources. Et ils expliquent que finalement, les projections que font le gouvernement en termes de baisse, soit d'augmentation de salaire ou de baisse de salaire, ou en termes d'effectifs, fait qu'il y aura moins de gens demain qui cotiseront à 41% et plus à 28%, ce qui finalement affaiblit l'ensemble. Donc finalement, c'est parce qu'il y aura moins de fonctionnaires demain que les gens seront obligés de travailler deux ans de plus.
Pour l'instant, il n'y a pas de réforme de la fonction publique. Pour l'instant, il n'y a pas de réforme de la fonction publique.
Chaque réforme en son temps. Chaque année, le régime des retraites des fonctionnaires, justement, est en déficit de 30 milliards et que l'État, justement, le finance. Ce qui fait qu'a priori, il n'y a pas de trou, mais le trou, il est bien là. Donc, parce que, et encore une fois, ça augmente cette dette publique. Et très important, la dette publique, parce qu'on l'oublie, on a l'impression, c'est vrai que c'est une des erreurs du coronavirus, la dette publique a augmenté de 582 milliards d'euros, maintenant on vous dit 12 milliards, on ne comprend plus. On dit, ben oui, attendez, là 582, 12 milliards, ce n'est pas grand-chose. Sauf que le problème, c'est que pendant ces deux années, c'était financé par la Banque Centrale Européenne. Donc le taux d'intérêt était à 0%, et maintenant les taux d'intérêt augmentent. Si jamais demain le gouvernement recule, ce qui à mon avis peut-être probable, enfin sur la réforme des retraites, ou entre guillemets, et il y a encore un trou, une dette publique qui augmente, les taux d'intérêt vont augmenter, et donc nous tous les Français, effectivement, ben on va avoir le coût de nos crédits qui va augmenter, et on va payer.
C'est déjà le cas, Marc.
C'est déjà le cas, mais ça va continuer.
C'est déjà le cas, mais ça va continuer, bien entendu.
Ça va monter très fort parce que justement, c'est plus acheté par la Banque Centrale Européenne. Donc c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette dette publique, c'est plus quoi qu'il en coûte qui coûte rien. Cette dette publique nous coûte extrêmement cher. Et donc, si ça continue d'augmenter, ça sera évidemment de mal en pis et on aura une économie française qui, malheureusement, va souffrir de plus en plus.
Ouais. Fabien Villedieu, vous pouvez répondre là-dessus?
Sur les financements, encore une fois, je sens être un dangereux gauchiste. Je pense que, avec un couteau entre les dents, la concomitance... Entre il n'y a pas d'argent dans les caisses de la Sécu et de l'autre côté, des dividendes de dingue qui se font. Les gens se disent quand même, est-ce qu'il n'y a pas une petite piste pour récupérer un peu d'argent pour financer le système de retraite de tout le monde?
Voilà. Alors, Eric Lattu,
mais parce que l'argument, il est j'allais dire, il est vieux comme le capitalisme, en fait, taxer les dividendes. Mais les dividendes...
Ils sont déjà taxés.
Vous savez ce que c'est qu'un dividende, en fait? Alors, ça peut être monstrueux, mais un dividende, c'est la rémunération de quelqu'un qui a pris un risque en achetant une action d'une société. Il a pris un risque. Et donc, pour le remercier, on lui verse un dividende chaque année. Bon, c'est ça un dividende. Alors, il y a des très gros dividendes, puis il y a des petits dividendes. Vous savez que dans des grands groupes français, par exemple, il y a plein de salariés, monsieur Villedieu, qui sont actionnaires de leur boîte et qui ont des actions de leur boîte et qui touchent parfois des dividendes. Vous voudriez les spolier aussi de leurs propres dividendes. Donc, si vous voulez, c'est pas une bonne pige, je vous dis franchement. Qu'il y ait une meilleure redistribution des profits, qu'il y ait une meilleure redistribution dans les pays comme les nôtres qui sont encore assez à l'aise, même si la dette est colossale, ça se discute. Mais la piste des dividendes, je comprends, ça parle à tout le monde, mais c'est absolument infaisable.
Avec la concomitance des deux.
Mais surtout, n'oubliez pas que 98% des entreprises françaises ont moins de 10 salariés. Donc pour eux, il n'y a pas des dividendes, c'est pas la folie, c'est des lendemains difficiles, des fins de mois difficiles. Donc ça veut dire que c'est ça également la réalité de l'économie française. Donc c'est là où c'est très dangereux. En laissant croire qu'il y aurait des dividendes comme ça qu'on pourrait taxer de façon indue, ça peut être particulièrement dangereux parce que la réalité de l'entreprise française qui fait la force quand même de la France, c'est malheureusement beaucoup d'entreprises qui souffrent. Donc voilà, c'est ça aujourd'hui qu'il faut bien voir. Il n'y a pas de recette miracle, sinon, mais dans.
Et puis ce qu'a dit Eric Woerth me semblait intéressant aussi tout à l'heure, monsieur Villedieu, c'est-à-dire il faut que les entreprises, quand même, prennent leurs responsabilités, peut-être au niveau des salaires et aussi au niveau de l'employabilité des seniors. Ça, c'est des sujets que l'entreprise.
Ça, c'est des vrais sujets pour les chefs
d'entreprise. L'entreprise devrait traiter et là, quand même, si j'ose dire,
merci Eric Revel, merci Fabien Villedieu, Marc Toiti, Louis de Ragnel. Dans un instant, Christine Kelly vous attend pour Face à l'info sur CNews. Hélène Zélani, Raphaël Delvolvé pour Europe Soir sur Europe 1. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à